celui qui m'a envoyé. Numéro 2, Exode 3h11 à 4h17, les excuses de Moïse et les réponses de Dieu. Moïse avance 5 excuses pour ne pas obéir à la mission de Dieu. Ceux-ci se distinguent par les mots mais et si, 3.2.11, 13, 4.2.1, 10. Cette section montre que Dieu suffit. Moïse était insuffisant mais Dieu se suffit à lui-même. Dieu a répondu à chacune des excuses et questions de Moïse par des déclarations sur sa propre souveraineté et sa puissance. Cette section est profondément encourageante. Si vous avez l'impression que Dieu vous envoie faire quelque chose qui vous dépasse, la clé est de détourner les yeux de vos échecs et de vos faiblesses. Obtenez une vision de Dieu. Il manque de référence, 3, 11 et 12, le premier argument de Moïse concernait lui-même. Qui suis-je ? Implique probablement qu'il n'avait pas la capacité d'accomplir une telle tâche. Il a demandé, avez-vous pensé à mon CV ? Au cours des 40 dernières années, j'ai été dans la nature. Pensez-y. Alors qu'il était prince, il est maintenant un humble berger. On lui demande maintenant de s'adresser à la personne la plus puissante du monde et de lui dire de libérer ses esclaves. Ce serait un peu comme si un mécanicien automobile déclarait la guerre au Canada. Imaginez un type en combinaison portant une clé à molette qui s'approche du président et lui dit « Laissez tout le monde partir ». Non seulement Moïse n'en avait pas la capacité, mais il ne l'avait pas vraiment non plus la réputation. Il n'était pas bien considéré par les Israélites. Sa première tâche serait de parler aux anciens, mais il doutait qu'ils l'écoutent. En réponse, Dieu a commencé par des promesses « Je serai certainement avec vous ». Tout au long de la Bible, c'est ce dont les dirigeants de Dieu ont eu besoin. C'est le non négociable pour servir Dieu. Pensez à Joseph, Moïse, Josué, Gédéon, Josepha et les disciples, Matthieu 28, 18 à 20. Dieu était avec eux tout. Alors Dieu promit un signe disant, « Vous adorerez tout Dieu sur cette montagne ». Dieu avait l'intention de ramener son peuple sur cette montagne pour chanter ses louanges. 2. Manque de contenu, 3h13-22, la grande question suivante de Moïse était, « Que dois-je dire ?» Moïse demanda, « Quel est ton nom ?» V13. Il était évidemment important de savoir qui est Dieu, surtout si vous comptez dire à un groupe de personnes que Dieu vous a envoyé. Évidemment, il ne suffirait pas de dire simplement « J'ai entendu une voix dans un buisson ». Moïse voulait partir avec l'autorité de Dieu. Quelle réponse Dieu lui a donnée ? Décomposons les versets 13 à 22 en deux parties. Premièrement, Dieu a dit à Moïse de leur dire son nom, V14 à 15. Dieu a révélé son nom Yahweh verset 15, correspondant aux quatre consonnes hébraïques YHWH, traduites par Seigneur dans la plupart des Bibles anglaises. Il est lié au verbe Ya, être, mentionné trois fois au verset 14, qui se traduit par Je suis en anglais. Un grand mystère existe ici. Personne ne sait avec certitude de comment prononcer YHWH, et le sens est également mystérieux, mais le sens semble être lié à l'idée de ce verbe être. Dieu est. Il est central. Il n'a pas de début. Il fait que tout soit. Il est Dieu. Est-ce que cela vous touche lorsque vous entendez « Dites-leur que je suis vous a envoyé ». Dieu dit qu'il est absolument central. Car toutes choses viennent de lui, par lui et pour lui, Romains 11, 36. Est-il central dans votre vie? Est-il central dans votre mariage? Est-il au centre de votre ministère? Dieu dit à Moïse que la chose la plus importante dans sa mission, c'est Dieu lui-même. Voici la grandeur de ton Dieu. Dieu dit qu'il existe par lui-même. Comme le dit Osée, Dieu n'a besoin de personne, mais quand la foi est présente, il agit à travers n'importe qui, Osée, Knowledge, 36. Dieu existe par lui-même et se suffit à lui-même. Il n'a besoin ni d'air, ni de sommeil, ni de nourriture. Il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Dieu n'est pas comme les faux dieux égyptiens. Il est le seul vrai Dieu dont tout dépend. Dieu est majestueux en termes de mystère. Nous ne le comprendrons jamais totalement. Dieu n'est pas un livre que vous lisez puis mettez sur votre étagère 27. Dieu n'est pas un cours que tu prends. Dieu est éternel et immuable. Il dit, « Je suis ». Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va ni mieux ni pire. Il est infiniment parfait. Jésus-Christ s'est appelé « Je suis ». Lorsqu'il essayait de convaincre les chefs religieux qu'il était le Sauveur, il dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis », Jean 8 2.58, confère autre déclaration « Je suis ». Ensuite, ils ont voulu le lapider. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Dieu de Moïse ? Jésus lui-même a dit, « Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés », Jean 8 2.24. Il n'est pas simplement un enseignant ou un exemple moral, mais Dieu. La Bible le présente tel que Thomas le confesse, « Seigneur Dieu », Jean 22.28. Deuxièmement, Dieu a également demandé à Moïse de leur dire sa parole, V16 à 22. Dieu a dit à Moïse qu'il devait aller voir les anciens et rapporter ce que Dieu lui avait dit. Moïse apprenait ce que signifie être prophète, déclarer ce que Dieu a dit. Remarquez comment Dieu lui a dit que les anciens écouteront ce que tu dis, V 18. Ce n'est pas la dernière fois que Dieu promet à Moïse que les gens répondront à son message. Je sais que de nos jours, on entend des gens dire que le christianisme va s'effondrer. Non, Dieu a un peuple. Certains répondront. Paul dit, le fondement solide de Dieu demeure ferme, 2 Timothée 2, 19. Dieu a assuré à Moïse que les anciens écouteraient. Les anciens étaient ceux à qui était confiée la direction de la communauté. Ils ont joué un rôle important dans la vie d'Israël tout au long de l'Exode, par exemple, chemin 18, 24. De la même manière, le Nouveau Testament enseigne une pluralité d'anciens qui font paître le troupeau de Dieu, Actes 22.17 à 35. 5 2.17. 1 Pierre 5 2.1 à 5, Tite 1 2.5 à 9. Notez également qu'ils allaient dire, « Allons faire un voyage de 3 jours dans le désert afin de sacrifier à Yahou notre Dieu. » 3, 18. Encore une fois, vous voyez comment le peuple de Dieu était asservi spirituellement et voulait être libre d'adorer. 7 2.16. 8 2.1, 20. 9 2.1, 13. 10 2.3. On ne sait pas pourquoi ils n'ont demandé que 3 jours. Il s'agit peut-être d'une ancienne expression du Proche-Orient signifiant un long voyage d'une durée indéfinie. Ce qui est important dans le voyage, c'est le but, l'adoration. Même si les anciens écoutaient, Dieu a rappelé à Moïse que Pharaon ne le ferait pas, du moins pas au début. Dieu a dit à Moïse qu'en réponse au refus de Pharaon, il devrait intervenir avec sa main forte en accomplissant des prodiges, 3, 19 à 20. Après que Dieu ait accompli ses merveilles, les Égyptiens ont permis aux Israélites de les piller, V 21 à 22. Que se passe-t-il ici? Dieu a dit, avant de sortir d'Égypte, je veux que tu emmènes les femmes faire du shopping. Dieu établissait un autre modèle, l'idée de conquérir et de prendre le butin. Paul a dit plus tard qu'après que Jésus-Christ ait vaincu nos plus grands ennemis du péché et de la mort, il a emmené des prisonniers en captivité, il a donné des dons aux hommes, Épée 4, 8. Ce qui est étonnant, c'est qu'on dit simplement aux Israélites de le demander. Dieu mène la bataille pour eux, ce qui est un autre modèle. Il convient également de noter que ces métaux précieux seront utilisés pour construire le tabernacle, Exode 35, 4 à 9, 20 à 29. Alors, que disons-nous aux gens en tant que missionnaires de Dieu? Nous leur disons qui est Dieu et nous leur disons ce que Dieu a dit. Cela inclut ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera dans le futur. Manque de convertis, 4, 1 à 9, même si Dieu vient de dire à Moïse que les anciens le croiraient, Moïse manquait de confiance. Moïse a demandé, et s'il ne me croit pas? V1. Moïse avait du mal à comprendre que Dieu fait des convertis. Sa responsabilité était de faire confiance à Dieu et de transmettre le message. Dans 4, 2 à 9, Dieu a répondu dans sa grâce en fournissant à Moïse 3 signes de la puissance de Dieu, sur la création, sur les hommes et sur les éléments de la nature. Moïse prenait son bâton et le jetait à terre. Lorsqu'il le ferait, il deviendrait un serpent, et lorsqu'il le ramasserait, il redeviendrait un bâton. Pourquoi Dieu a-t-il accommodé Moïse de cette manière? Ainsi, ils croiront que Yahvé, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, vous est apparu, V5. Nous pourrons peut-être tirer quelques leçons de cette scène. Tout d'abord, remarquez l'autorité de Dieu. Il lui a dit de l'attraper par la queue. Vous ne ramassez pas les serpents par la queue, ou du moins, je ne le fais pas. Beaucoup pensent que le serpent était un cobra. Bien que cela soit incertain, nous savons qu'en règle générale, on ne plaisante pas avec les serpents. Le cobra vicieux représentait le dieu national de la basse Égypte. Je pense que ce que Dieu montrait à Moïse ici, c'était la grande autorité de Dieu sur le mal, et même sur le malin. À la croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. Et tout au long de la Bible, il y a une rivalité constante entre le peuple de Dieu et l'ennemi. Quel symbole y avait-il sur la tête de Pharaon? Un serpent. Partout en Égypte, il y avait des images de cobras sur les murs, les casques et les monuments. Moïse apprenait ici quelque chose sur l'autorité divine. Nous pouvons également tirer une leçon d'humilité. Moïse a appris la nature de son leadership grâce à ce bâton. Moïse n'avait pas de sceptre. Il avait un bâton. C'est cela le leadership dans le royaume de Dieu. Il a autorité 29 sur le malin, mais il ne gouverne pas comme un dictateur, mais comme quelqu'un qui se sacrifie pour son peuple, comme un berger. Notez également que le bâton servait de signe de la présence de Dieu. Ce bâton deviendrait également un signe visible que Dieu était avec Moïse. Non seulement Moïse utilisait le bâton, mais il mettait aussi sa propre main dans son manteau. Lorsqu'il le retirait, il était couvert de lèpre. Puis, quand il le remettait et le retirait, il était guéri, c'était le deuxième signe, V6 à 7. C'était un signe de la puissance de Dieu sur la maladie et la mort des hommes. Le troisième signe était le suivant, Moïse prendrait de l'eau du Nil et la déverserait sur le sol. Quand il le ferait, cela deviendrait du sang sur la terre sèche, V9. Ce signe était un indicateur des fléaux à venir. Quel signe avons-nous? Notre signe est un tombeau vide. Matthieu 2.39 à 40. Le tombeau vide est le signe que le christianisme est vrai, tout comme la parole de Dieu. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. IV manque de compétences en communication, 4h10-12, cette excuse concernait l'incapacité de Moïse à bien parler, V10. Quel était exactement le problème de parole de Moïse? Nous ne le savons pas. Les gens pensent que cela aurait pu être psychologique. Peut-être que Moïse était timide et effrayé à l'idée de parler en public, comme certains de mes étudiants dans le cours de sermon delivery, ou comme John Pipe l'était à l'université. Un étudiant m'a dit un jour qu'il était excité mais mort de peur. Il a demandé, puis-je commencer? Chaque fois que quelqu'un prononce son premier sermon, il dit souvent quelque chose comme « je suis une épave nerveuse ». C'est bien dans un sens. Notre peur ne devrait pas nous paralyser, mais nous devrions avoir désespérément besoin de l'aide de Dieu. Notre confiance ne devrait pas être en nous-mêmes, cela doit être en Dieu, 2 Cor 3, 5. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un problème éducatif. Peut-être que Moïse a échoué dans sa rhétorique. Peut-être pensait-il qu'il n'était pas assez intelligent pour convaincre le dirigeant. Peut-être qu'il pensait qu'il était trop vieux. Ou cela pourrait être le revers de la médaille pour certains d'entre vous, comme Jeremiah, qui se trouvait trop jeune. D'autres ont spéculé sur d'autres possibilités. Il y avait peut-être un problème vocal, il avait un trouble de la parole. D'autres prétendent qu'il s'agissait d'un problème verbal. Peut-être faisait-il référence à la langue égyptienne qu'il a perdue après avoir passé 40 ans dans le désert. Enfin, certains disent qu'il s'agissait peut-être d'une humilité exagérée. Est-ce qu'il dit quelque chose comme Paul, « Je suis le pire des pécheurs », Timothée 15, ou « Je suis le plus petit de tous les saints », Éphésiens 8. Il y avait probablement un élément de cela chez Moïse. 30. Ce qui est clair, c'est que Moïse ne se considérait pas comme le meilleur des orateurs. Il ne se sentait pas suffisant pour accomplir seul une telle tâche. Les Corinthiens ne pensaient pas non plus que Paul était un grand orateur, 2 Cor 10.10, 11.2.6, et pourtant il était le prédicateur missionnaire le plus efficace de l'histoire. Comment? Il a dit, « Quand je suis venu vers vous, frères, pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je ne suis pas venu avec un discours brillant ni avec de la sagesse. Car je ne pensais pas que ce soit une bonne idée de connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et lui crucifié. Je suis venu vers vous avec faiblesse, avec crainte et avec un grand tremblement. Mon discours et ma proclamation n'étaient pas accompagnés de paroles persuasives de sagesse, mais d'une puissante démonstration de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. 1 Cor 2, 1 à 5, Paul a dit qu'il était venu dans la faiblesse, dépendant de la puissance de Dieu. Moïse a dû apprendre à faire de même, et nous aussi. En réponse, Dieu a essentiellement dit à Moïse deux choses, cela est irrévérencieux et cela n'a pas d'importance. Concernant l'irrévérence, Dieu dit, qui a fait la bouche humaine? Exode 4:11. Dieu disait à Moïse qu'il l'avait formé dans un but précis. Dieu dit, pensez-vous que je ne connais pas vos faiblesses perçues? C'est précisément à cause de ces faiblesses que je veux utiliser pour obtenir la gloire. Ensuite, Dieu a abordé la non-pertinence de l'objection. Dieu a dit, « Je t'aiderai à parler et je t'apprendrai quoi dire », V12, Confer JR 1.4 à 10. Dieu recherche des journalistes, pas des orateurs. Nous n'avons pas besoin de faire de beaux discours, nous donnons juste des nouvelles. Le problème de Moïse était qu'il pensait trop à lui-même. Remarquez je. Dieu disait, « Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de je suis. Il s'agit de faire connaître la parole de Dieu. » Nous devrions chercher à glorifier Dieu avec nos capacités ainsi qu'avec nos handicaps. Cela me rappelle la dernière strophe de Doris Afountain de Copé, c'est nous qui soulignons, eh bien, depuis que j'ai vu le ruisseau par la foi tes blessures coulantes approvisionnent, l'amour rédempteur a été mon thème, et ce sera le cas jusqu'à ma mort. Puis dans une chanson plus noble et plus douce je chanterai ton pouvoir pour sauver, quand cette pauvre langue zozotée et balbutiante reste silencieuse dans la tombe. 31 Moïse devait utiliser sa langue pauvre et balbutiante et proclamer la parole de Dieu en tant que prophète fidèle. V manque d'engagement, 4h13-17, cette dernière excuse n'était pas tant une excuse qu'un appel désespéré de Moïse à transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Il n'avait plus d'excuses. Chacune de ses questions avait reçu une réponse étonnante. Maintenant, il a essentiellement dit, « Me voici, envoyez quelqu'un d'autre. » Dieu a répondu avec colère, V14a, Mais il a également été miséricordieux ici. Il a aidé Moïse en envoyant Aaron, V14b16. Dieu a dit, il sera votre porte-parole. Ils étaient co-orateurs, pour ainsi dire. Aaron était également un encouragement. Moïse a finalement prononcé la grande majorité des paroles. Puis Dieu a rappelé à Moïse les signes qu'il accomplirait pour valider le message, V17. Je suis m'a envoyé le voyage de Moïse et la fidélité de Dieu Exode 4:18-31. Avant de partir pour l'Égypte, Moïse demanda à Jéthro de le laisser aller voir si son peuple, les Hébreux, était encore en vie. La raison pour laquelle il n'a pas mentionné sa mission auprès de Dieu n'est pas claire. Après avoir reçu la bénédiction de Jéthro, il emmena sa femme et ses fils. Il a également emporté le bâton de Dieu avec lui en Égypte, signifiant la présence de Dieu. Au verset 21, nous voyons une phrase importante qui sera mentionnée dans les chapitres à venir, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, afin qu'il ne laisse pas partir le peuple », 4:2.21, 7:2.13, 22, 8:2.15, 32, 9:2.12, 35, 10:2.1, 14:2.8. Il y a tellement de choses à dire que nous aborderons plus tard avec cette idée. Pour l'instant, notez simplement que Dieu, en endurcissant le cœur de Pharaon, est capable de démontrer pleinement sa puissance sur les ennemis de son peuple. Après que Dieu ait dit cela à Moïse, il lui a demandé d'expliquer la filiation d'Israël à Pharaon, V22-23. Dieu voulait libérer son fils pour qu'il l'adore. En fait, le premier-né est un thème qui revient tout au long de l'Écriture, d'Adam à Abraham en passant par David et Jésus jusqu'à tous les saints, PS 89:2.26-27, JR 31:2.9, Rome 8:2.29, Colossiens 2:15-18, et 1:2.6, 12:2.23, Apocalypse 1:5. Bien entendu, cet appel insultait Pharaon. Il croyait que lui seul était le fils des dieux. Pourtant, Dieu a dit à Moïse qu'il tuerait le fils premier-né de Pharaon s'il ne le laissait pas partir, Exode 4:23. Au fur et à mesure que l'histoire continue, nous rencontrons certains des versets les plus étranges de l'Ancien Testament, au verset 24 à 26. Sorti de nulle part, semble-t-il, Dieu 32 a cherché à mettre, Moïse, à mort, V24. C'est apparemment parce que son fils premier-né n'était pas circoncis, V24. Moïse devait respecter l'exigence donnée à Abraham, à savoir circoncire ses fils, Genèse 17. Dieu se souvenait de son alliance et du signe de son alliance. Séphora semble avoir agi fidèlement, vainquant son mari entêté, et la vie de Moïse a été sauvée grâce à son acte. Ici, elle a fait la circoncision à la place de Moïse, Exode 4:2.25. Elle lui montrait que nous n'avons raison avec Dieu que par le sang et les promesses de son alliance. Hormis l'effusion du sang, Moïse n'était pas différent des Égyptiens. Pour une variété d'interprétations de ce passage, voir Stuart, Exode, de même, en tant que chrétien, nous savons qu'en dehors du sang et d'un cœur nouveau, circoncision du cœur, nous ne sommes pas différents des incroyants. Alors que le voyage en Égypte se poursuivait, Aaron fut envoyé, V27. On lui a dit de rencontrer Moïse et il a obéi à l'appel de Dieu. Aaron et Moïse se rendirent devant les anciens d'Israël et leur racontèrent ce que Dieu avait fait dans leur vie, accomplissant ainsi ce que le Seigneur leur avait commandé. Et tout comme Dieu l'avait promis, les anciens crurent, V29-31. Dieu était fidèle. Moïse s'inquiétait de cette rencontre, mais elle s'est avérée une victoire facile puisque c'était le plan de Dieu. Le chapitre se termine par une doxologie. Même avant leur liberté, ils savaient que Dieu était digne d'adoration et d'exaltation. Ils adoraient Dieu parce qu'ils prêtaient attention au peuple d'Israël dans sa misère, 4:2.31, Confère 3:2.16. Quel mot génial dans la Bible de la rédemption, faites attention, car j'y vais d'y visiter. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot qui nous donne l'idée d'un évêque ou d'un pasteur. C'est le même mot qui est utilisé dans Jacques 1:2.27, qui nous dit de prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. Cela signifie s'impliquer, guider. Tout au long de l'histoire rédemptrice, Dieu est le Dieu qui prête attention à son peuple, il prend soin de son peuple, il s'implique dans la situation et les sauve, voir Jean 21:2.1, 52:24, Ruth 1:2.6, Matthieu 25:2.36, Luc 1:2.68, 7:2.16. L'attention bienveillante de Dieu devrait conduire à une exaltation qui glorifie Dieu. Louez Dieu, car il a prêté attention à nous dans notre affliction. Il est venu vers nous dans notre esclavage et nous a libérés, par le Christ. Et maintenant, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à prêter attention à ceux qui sont dans l'affliction, à ceux qui ont des besoins physiques et spirituels. Connaissez-vous ce Dieu? Ce Dieu est venu à nous en Jésus, celui qui a dit, « Je suis la porte. Je suis la vigne. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Connaissez-vous Jésus-Christ ? Non seulement nous devons connaître Dieu à travers Christ, mais nous devons également élever notre vision de Dieu. Vous ne tenterez pas de grandes choses pour Dieu si vous n'avez pas une grande vision de Dieu. Ces chapitres nous montrent qu'il est saint, autonome, éternel, mystérieux, glorieux et miséricordieux. En connaissant Dieu et en élevant votre vision de Dieu, réalisez que Dieu accomplit son dessein à travers des vaisseaux faibles. Grâce à cela, vous pouvez arrêter de chercher des excuses et commencer à faire confiance à ses promesses. C'est l'un des passages les plus encourageants de l'Écriture. Regardez qui Dieu utilise. Il peut aussi vous utiliser. Réfléchir et discuter 1. Si vous pouviez changer une chose chez vous, quelle serait-elle ? Comment Dieu pourrait-il accomplir son plan à travers vous sans rien changer ? 2. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé beaucoup de bergers ? Quelles sont les compétences et les vertus d'un berger compétent qui sont également précieuses chez un leader de personnes ? 3. Comment est-il possible de prononcer les paroles de la prière des pécheurs sans être sauvé ? Quelle est la différence entre prononcer des paroles magiques et un véritable repentir ? 4. Pensez aux personnes que vous connaissez et que Dieu a envoyées pour diverses missions. Quelles étaient leurs missions ? Laquelle de vos compétences Dieu pourrait-il utiliser ? 5. Moïse a demandé, « Qui suis-je ? » Dieu répondit, « Je serai certainement avec vous. » 3, 11 à 12. Comment cet échange vous encourage-t-il à entreprendre n'importe quelle tâche que Dieu vous confie ? 6. Qu'exprime « Je suis » à propos de la nature de Dieu ? En quoi est-ce encourageant pour ceux qui l'envoient en mission ? 7. Quel était le but ultime de Dieu délivrant Israël de l'esclavage ? 3h12, 18. Quel est le but ultime de notre salut ? Quels résultats sont secondaires ? 8. Moïse a reçu 3 signes tangibles de la puissance de Dieu, nous avons le signe historique du tombeau vide. Quel est l'avantage d'un signe tangible ? En quoi le tombeau vide est-il encore meilleur ? 9. Nommez quelques façons dont le manque de talent pour parler peut réellement être un atout dans le ministère. 10. Dans quel sens la nation d'Israël était-elle le fils premier-né de Dieu ? Dans quel sens les chrétiens sont-ils les fils premiers-nés de Dieu ? Dans quel sens Jésus est-il le fils premier-né de Dieu ?